Alors Louis-Marie, comment ça va? Dites-nous, les auditeurs veulent savoir, vous n'étiez pas là la semaine dernière.
Mais ça va, merci de vous préoccuper de ma santé.
Vous allez mieux Louis-Marie, ça se voit.
Ah, c'est gentil, mercredi dernier, alors que le Covid me clouait au lit. Bully Lanners proposait une histoire d'amour dans un décor fascinant. Vous connaissez mon côté fleur bleue, Jonathan.
Évidemment.
Il est donc impossible que je ne revienne pas sur ce petit bijou romantique. Pour son 5e long métrage, le cinéaste belge, plutôt habitué à mettre en scène des histoires d'amitié, raconte cette fois un amour naissant entre deux habitants d'une petite île. Sur l'île de Lewis, une poignée d'individus vit éloignée de tout. Bercée par les vents et marées, cette petite communauté presbytérienne ne voit pas souvent débarquer des étrangers. Phil, arrivé sur l'île il y a quelque temps, travaille pour le comte d'Angus, un agriculteur du coin. Un jour, Phil est victime d'un AVC qui lui fait perdre la mémoire. Millie, la fille d'Angus, devient sa référente pour le guider dans cette vie qu'il ne connaît plus. Elle lui raconte à quoi ressemblait son existence avant son accident vasculaire et transforme la réalité de leur relation. Une complicité discrète et une aventure secrète se mettent alors en place entre les deux quinquagénaires. Bully Lanners investit les décors majestueux de l'île de Lewis, une terre écossaise reculée du monde. Il connaissait le lieu et savait qu'il y tournerait avant même de connaître l'histoire qu'il mettrait en scène. Bully Lanners.
En fait, j'ai d'abord choisi l'île avant de choisir l'histoire, parce que je vais en Écosse depuis 20-30 ans chaque année. J'ai une passion pour l'Écosse, vraiment. Et j'avais toujours dit un jour je ferai un film en Écosse. Donc je me suis installé sur l'île de Lewis pour écrire, parce que cette île a ce site particulier, c'est qu'elle est le fief de l'église presbytérienne, et que j'y retrouve quelque chose qui me rappelle peut-être mon enfance. Et je me suis installé là, puis j'étais parti pour écrire un thriller d'abord, peut-être que c'était une très mauvaise idée. Et arrivé là-bas, ben, le mélange de ces paysages, de ces landes, tourbées, le vent et le morceau de musique que j'écoutais, puis aussi le dress code un peu des presbytériens le dimanche, je me suis dit, j'ai tout le décorum là pour faire une histoire d'amour. Cette histoire n'aurait pas pu se passer ailleurs. L'église presbytérienne est très présente sur l'île, elle rythme vraiment la vie sociale et politique. Plus de la moitié sont presbytériens, donc c'est une forme de protestantisme radical avec des schismes réguliers, hein, très, très réguliers et très récents. Le dernier date de l'an 2000, donc il y a vraiment à chaque fois une partie qui sépare, qui se radicalise encore. Et donc elle influence et elle impose son rythme de vie à l'île. Et donc ça me permettait d'avoir un personnage comme Millie qui en même temps est sur une île qui est déjà une forme de prison naturelle, hein, parce qu'on ne quitte pas une île comme on prend une voiture pour foutre le camp. Il y a une démarche à faire, il faut aller acheter un billet d'avion, il faut acheter un billet de ferry. Enfin c'est... Et puis il y a aussi la communauté qui la maintient prisonnière d'une certaine image, une image que la communauté a d'elle, une image de ce qu'elle croit être, l'image qu'elle doit avoir face à la communauté.
Bully Lanners s'est raconté des histoires comme il sait composer les plans pour donner à son récit, cette miraculeuse histoire d'amour, un écrin austère et splendide. La lande et la plage, battues par les vents, permettent à l'amour d'éclore, alors que les deux amants subissent le poids social d'une communauté fidèle à la discipline stricte de l'église presbytérienne. Pour l'office du dimanche, les femmes portent toujours chapeau et vêtements sombres, les hommes le costume, comme il était d'usage au 19e siècle. Ici, surtout, pas d'effusion, on exprime peu, voire pas du tout ses sentiments, tout semble corseté. Pourtant, la beauté aride de l'environnement ne fait que renforcer l'évidence de cette rencontre, quand bien même tout devrait séparer ses protagonistes, leur âge, leurs différences sociales et physiques. Bully Lanners, délicatement, avance à pas mesurés. Il interprète avec finesse le retour à la vie, à l'amour, de Phil, ce type un peu bourru. Face à lui, l'actrice britannique Michelle Ferley donne à Millie son charme tout en retenue. Cette femme sophistiquée, coincée dans un carcan sociétal, va, l'espace d'un sourire, laisser paraître la lumière d'un amour trop longtemps contenu. Avec ce rayon de soleil flamboyant, l'ombre d'un mensonge reste définitivement une grande histoire d'amour romantique.
Alors vous avez l'âme romantique ce matin, Louis-Marie, et en plus de ça, vous voulez danser maintenant, mais retour de Covid, est-ce que c'est bien raisonnable?
Oui, mais c'est à cause de Cédric Clapiche, il a la dent chevillée au corps, lui, au point de réaliser un film dont elle est l'élément essentiel. Encore, son 14e long métrage s'ouvre par ce qui s'apparente à un plan séquence. Le spectateur se retrouve au cœur d'un ballet, sur scène et dans les coulisses. Pas de paroles, seulement la musique et des jeux de caméra. Pour arriver jusqu'à son héroïne, Élise, danseuse étoile, interprète la bayadère. On la voit attendre, on la voit danser. Le corps de ballet est à l'unisson. On passe des coulisses à la scène avec la même fluidité et dans la pénombre d'un décor, Élise aperçoit son petit ami, lui aussi danseur de la troupe, embrasser une ballerine. Alors on sent l'exigence, la précision, ce qui semblait être une évidence devient incertitude et c'est la chute en pleine représentation. Le corps d'Élise, sous les coups de la trahison, a craqué. La blessure est grave, c'est une déchirure. La jeune femme, tout juste âgée de 26 ans, ne pourra peut-être plus jamais danser. Son monde s'effondre, prête à renoncer, Élise va devoir apprendre à se réparer. Plutôt amateur de danse contemporaine, Cédric Lapiche découvre la danse classique en suivant, pour son documentaire, l'étoile Aurélie Dupont. Et puis le confinement lui a donné la possibilité de tourner un film très court, Dire merci, avec le concours des danseurs de l'Opéra de Paris. Voilà quelques-unes des étapes qui l'ont conduit à réaliser encore. Cédric Lapiche.
C'est en faisant les poupées russes que j'ai découvert la danse classique, au Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Et puis ce documentaire sur Aurélie Dupont, alors là vraiment ça m'a mis les yeux là-dedans. C'est-à-dire que j'ai filmé pendant 4 ans ce documentaire, donc ça a duré longtemps et j'ai passé beaucoup de temps dans les coulisses de l'Opéra de Paris. J'ai vu à quel point c'était encore plus magique que les spectacles, c'est-à-dire à participer aux répétitions, être dans les coulisses et voir tout ce qui se passe dans les coulisses d'un endroit comme l'Opéra de Paris, c'est complètement magique, quoi. Après ça, on m'a proposé de faire beaucoup de captations de spectacles de danse. Du coup, j'ai rencontré d'autres chorégraphes, Crystal Pait, Ophée Schechter. Depuis que j'avais fait ce documentaire sur Aurélie Dupont, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, je m'étais dit ça serait bien de faire une fiction avec ça. Je savais pas tellement comment prendre la chose parce que ça n'existe pas finalement les films sur la danse. Il y a les comédies musicales où il y a beaucoup de danse. Et puis, il n'y a pas de film sur le milieu de la danse. Il y a Altman qui avait fait un film qui s'appelle The Company. Mais en général, ce n'était pas des films très réussis. Et j'avais l'impression que moi, avec ce que je connaissais des coulisses de la danse, que je pouvais utiliser ça pour faire du cinéma, pour raconter une histoire.
Loin du film hommage ou du docu-fiction, Cédric Lapiche préfère s'attacher au processus de reconstruction de son personnage central, incarné par Marion Barbeau, danseuse étoile de son état qui s'avère excellente actrice. Tout en restant fixé sur le chemin de cette renaissance, le cinéaste n'abandonne pas pour autant ce qui fait l'ossature de son cinéma, les relations sociales et humaines avec des personnages hauts en couleur. Personnages qu'on retrouve dans des cercles concentriques. D'abord celui de la famille, de sœurs compréhensives et un père intello peu attentif, puis le cercle des amis avec le kiné lunaire à la spiritualité naïve et le couple de cuisiniers qui s'aiment autant qu'ils s'engueulent. Enfin, le cercle des danseurs qui forment une compagnie de danse contemporaine en résidence chez une proprio boiteuse, mère de substitution idéale. Clapiche, en chef d'orchestre expérimenté, a su s'entourer d'acteurs. Une troupe plutôt composée de Denis Podalydès, François Civil, Pio Marmaille, Souheila Yacoub et Muriel Robin qui, plus que des interprètes, sont leurs personnages. Le fil de l'histoire est certes ténu, mais Clapiche le suit sans le moindre accroc. Les moments de danse sont d'une extrême délicatesse et d'une puissance artistique rare. Et le message est clair, simple, mais clair. La volonté est le remède à bien des maux, ceux qui blessent le corps comme ceux qui meurtrissent l'âme.
Merci beaucoup Louis-Marie Solaire pour cette chronique Mercredi Cinéma. On vous retrouve la semaine prochaine ?
Bien sûr.